La nuit, il passe les murailles et franchit les seuils. Sous la forme d'une chauve-souris, il hante les chambres livrées au sommeil. Sous la forme d'un loup noir, il traque tout ce qui fuit. Abandonne toute espérance au homme dont il s'approche.
Vlad Tepeš, Dracula.
Là, c'est déjà dans le livre. Comme dans les contes, on sort de son espace protégé, où on sait pratiquer des choses, où on maîtrise les forces du mal. Si on passe dans l'espace non protégé, on s'expose à toutes sortes d'attaquants qui s'emparent de votre force vitale. Alors vous vous défendez, vous lui demandez qu'il sorte. Dans toutes les incantations, on envoie le mal de l'autre côté de la limite, dans tous les endroits inaccessibles. Vous n'avez quoi chercher chez nous? Allez-vous-en, c'est l'exorcisme donc de ce genre. Deux fideokiates des gardes, c'est piche proptere. Deux fideokiates des potèques, lumea peias numaitrec.
Deux fideokiates
des fontaines, c'est piara apacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac
êtes-vous?
I am Dracula.
Une grande traversée de Matteo Caranta et Anne Pérez Franchini.
Chaque nuit, Dracula réintègre sa tombe. Donc sa tombe est dans une crypte au fond du château. Et sa vie, si on peut appeler ça une vie, est modulée par l'alternance des jours et des nuits. Il dort le jour et la nuit, il se réveille et il peut, à ce moment-là, partir en chasse.
D'autant que je me souvienne, dans les années 30, des fouilles ont été effectuées dans le monastère de Snagov. Snagov est un endroit très agréable où se rendre le dimanche.
Bogdan Popa.
On peut aller sur le lac, emprunter des barques, nager ou faire un barbecue. Et dans cet endroit très pittoresque, il y a une petite île sur laquelle se trouve un monastère. Il y a quelques années encore, il n'y avait même pas de pont pour rejoindre le monastère. Et comme il était très isolé, il a d'abord servi d'imprimerie. Il y avait une presse à imprimer et on y imprimait des livres saints. Et puis, cette imprimerie a disparu et le lien a servi à l'enfermement des prisonniers. Il était tout à fait normal, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, de transformer certains monastères en prison, parce que l'on y trouvait les chambres des anciens moines. Snagov a donc toujours été lié à des histoires macabres. On raconte qu'un pont se serait effondré alors que des prisonniers y étaient enchaînés, ou d'autres choses étranges de ce genre. Dans les années 1930, quand les fouilles ont commencé, ils ont découvert une tombe dans une position très étrange. Elle était parallèle à l'autel, c'est-à-dire que le prêtre devait marcher dessus pour lire le sermon. Cela paraît totalement impensable. Aujourd'hui, il est interdit de marcher sur les tombes. C'est très mal vu. Mais à l'époque, c'était un péché. Puis des chercheurs ont commencé à recouper différentes sources archéologiques et historiques. Et ils sont arrivés à la conclusion que Vlad l'Empaleur était probablement enterré à cet endroit.
Le double sans reflet. Épisode 4.
Le sultan Mahomet II avait demandé au patriarche grec de Constantinople comment fonctionnait la justice ecclésiastique. Vous savez que le patriarche et les évêques ne pouvaient pas punir de la peine de mort. Et alors Mahomet II a demandé, mais comment vous faites pour imposer votre décision ? Par l'excommunication. Cette excommunication, donc, ça pesait très lourd. Le patriarche a invité le sultan qui a envoyé deux fonctionnaires assister à la démonstration. Ça se passait dans l'église patriarcale. Ils ont déterré une femme, une grecque, qui était décédée depuis peu de temps et qui était morte, excommuniée par le patriarche précédent. Quand ils l'ont déterrée, elle n'était pas décomposée. Le cadavre était intact, gonflé, rouge, beau, comme au premier jour. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'elle devenait vampire. L'âme ne se séparait pas du corps. Et donc, le corps restait en quête du pardon pour pouvoir quitter l'âme et pour que le corps se décompose. Et ils ont commencé, le patriarche même, une messe pour lever l'excommunication. Et pendant qu'ils faisaient cette prière, déjà les gens dans l'église entendaient les ossements craquer et le corps qui se décomposait. Ça, c'est la croyance dans les vampires. Suite à une telle excommunication, on était condamné à errer éternellement. Votre corps ne pourrissait pas et l'âme devait chercher le salut partout. Comme Dracula donc a été trouvé entier, on pouvait dire qu'il était lui aussi sous une malédiction de ce genre.
On a commencé à parler de revenants sanguinaires qui devaient boire du sang pour survivre à partir du XIe, XIIe siècle. On employait le terme de sangui sugae, c'est-à-dire suceur de sang.
Jean Marini.
Alors, ils sucent du sang parce que dans la Bible, il est dit que le sang est le siège de l'âme. Donc, en buvant le sang de ses victimes, il boit leur âme. Donc, il y a quelque chose de démoniaque dans le vampirisme, c'est que le vampire aspire le sang des bons chrétiens pour leur voler leur âme et les vouer à la damnation. En Roumanie, et d'ailleurs en Europe centrale d'une façon générale, on pensait que certains individus étaient plus susceptibles que d'autres de devenir vampires après leur mort. Alors c'était le cas des gens qui étaient en état de péché mortel, qui n'avaient pas reçu les derniers sacrements au moment de leur mort. On pensait aussi que tous ceux qui avaient combattu la religion, qui avaient renié leur religion, pouvaient devenir vampires.
Je pense que le vampirisme nous touche parce qu'il est un de ces moments où, très visiblement,
Peter Mario Krauter.
La question de la mort, de la vie et de la mort est traitée. Parce que le vampire, en principe, survit sa mort. Oui, il est dans une existence semi-vivante ou semi-mortelle parce qu'il est un mort. Alors, le vampire est mort. C'est très important. Il ne vit pas, il est mort. Mais il est encore là. Pourquoi est-ce qu'il est encore là? Et une question intéressante est la question que se pose dans le roman Dracula de Bram Stoker. Ce Dracula existe déjà des centaines d'années. C'est très intéressant que cela, dans la littérature, est possible. Dans la croyance populaire, cela n'existe pas parce qu'il faut le détruire si vite que possible. Mais je pense que ça nous touche, que c'est une figure qui, dans un certain sens, survit la mort pour sécuriser son existence, qui ne doit pas être en principe. Une autre chose nous touche, et cela explique aussi la popularité du vampire aussi pour la littérature. Par exemple, tous les romans modernes avec des vampires qui même brillent dans le soleil. Le vampire, ce n'est pas comme le monstre de Frankenstein qu'ils font construire, dont il faut avoir des connaissances scientifiques pour le créer. Non, il est là. Et chacun entre nous, dans la croyance populaire, même ici, nous sommes ici dans cette chambre, chacun peut se transformer après sa mort en un vampire. Simplement parce que cette transformation oui, se déroule. C'est un monstre qui n'a pas besoin de quelqu'un qui l'a créé, il est seulement en existence. Et cela est très important. Chacun de nous peut devenir un vampire.
Veuillez pardonner mon intrusion.
Vlad Tepes meurt une première fois en 1476. Il renaît quelques années plus tard en modèle politique pour le tsar Ivan le Terrible, avant de tomber dans l'oubli. Au milieu du 19e siècle, Tepes apparaît à la lueur des torches dans L'attaque de nuit, une immense toile du peintre Théodore Amann. Il réapparaît aussi dans un pamphlet poétique du poète Mihai Eminescu. En parlant de la corruption conséquente à la modernité dans ses quatre derniers vers, il exhorte au retour de Tepes. Que ne viens-tu pas, Seigneur en pâleur, les partager en deux camps, les fous et les traîtres, et en de larges prisons les rassembler et y mettre le feu. Vlad entame sa transformation. Mais sa métamorphose se joue loin de Roumanie. C'est en 1897 qu'un Irlandais basé à Londres cherche un son et un nom pour faire résonner son monstre buveur de sang. Dracula prend alors sa forme décisive.
Le lien entre Dracula, le Dracula historique, qui donc est un personnage réel,
Alain Pozzuoli,
et le roman de Stoker, et enfin, pour le lecteur d'aujourd'hui, en tout cas, c'est quelque chose de naturel, c'est presque évident. C'est un mythe très complexe, très riche, parce que il représente à la fois un univers complètement imaginaire, et en même temps, il est la traduction du réel dans la vie de son auteur, Bram Stoker. Parce que Dracula, c'est un petit peu la connexion de toutes les croyances, en même temps du refus de ces croyances. Le roman est à la fois traversé par des croyances, il n'y a pas d'autre mot, et en même temps de choses extrêmement modernes. Dracula, c'est le choc entre l'ancien monde et le nouveau, quelque part. Ce qui se rapporte à l'ancien monde, c'est toutes les croyances, justement, dans des divinités, dans des créatures extraordinaires, des monstres. Et en même temps, c'est aussi le contraire, puisqu'il fait intervenir des éléments techniques qui étaient tout nouveaux à l'époque, le téléphone par exemple aussi. Et ces deux mondes contraires se mélangent et donnent le résultat qu'est le livre, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois complètement fantastique, extraordinaire. Avec Dracula, Stoker a posé tous les codes physiques, visuel, et en même temps dans la façon d'être du vampire, tout est parti de là. C'est le prototype du vampire, et en même temps il reste toujours complètement à part.
Nous devrions passer un moment simple. Nous sommes encore loin du point du jour. Et dans la journée, n'est-ce pas? Vous ne me verrez jamais.
C'est toujours ambigu, hein, si vous dites le comte Dracula, c'est le personnage du roman. Hein. Or, on ne sait rien pratiquement de lui, hein, sinon que il parle très souvent de son ancêtre, le voïvode de Dracula, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, c'est lui-même, le voïvode de Dracula, qui a survécu. Hein. Alors c'est un vieillard, hein. Il apparaît comme un vieillard au début du roman, avec une grande moustache blanche, et il vit, si on peut dire, dans un château fort en ruine, qui se situe au col de Borgo, dans les montagnes de Transylvanie. Donc c'est un personnage solitaire, très solitaire. Et Jonathan Harker arrive chez lui parce qu'il a décidé d'acheter des biens fonciers à Londres. Et Jonathan Harker est une sorte de clerc de notaire, si vous voulez, pour lui faire signer un certain nombre de textes. Donc ça, c'est l'argument du roman au début.
Jonathan Harker. Cher monsieur, vous êtes le bienvenu à mon château.
Je vous remercie.
Je vous en prie. La nuit est froide et vous devez mourir de fatigue et de faim.
Il y a très peu de choses, hein, finalement, dans le roman sur Vlad Dracul, sur Vlad l'Empaleur. Il le cite à deux reprises, mais on ne peut pas dire qu'il se serve de son histoire pour écrire Dracula. Il n'y a aucun passage réel de la vie de Vlad l'Empaleur qui serve d'élément tangible pour écrire le roman. Il cite le personnage à deux reprises, sans plus. Alors voilà. Dans le chapitre 3, dans le journal de Jonathan Harker, il fait dire par la bouche même du comte Dracula « Et n'est-ce pas un descendant du premier Dracula, héritier des ardeurs guerrières de son père, qui bien plus tard retraversera le fleuve pour porter la guerre aux Turcs sur leur propre terrain ?» Et dans un autre passage, au chapitre 18, dans le journal de Mina Harker, cette fois, il précise « Notre ennemi doit sans doute être le voïvode Dracula, qui a gagné son surnom pendant la guerre contre les Turcs, qu'il alla porter de l'autre côté du grand fleuve, sur le territoire turc lui-même. Si telle est la vérité, Dracula n'est vraiment pas un homme ordinaire, car à cette époque, et même des siècles plus tard, on l'a considéré comme un homme supérieurement intelligent, rusé, comme le plus vaillant des fils habitant le pays par-delà la forêt. » C'est les deux seuls moments du livre où le nom de Dracula l'Empaleur est cité. Et il n'y a aucun élément de sa biographie qu'on retrouve dans le livre.
An ancestor, I see a resemblance.
Order of the Dracul is the dragon. An ancient society pledging my forefathers to defend the church against all enemies of Christ. The relationship was not entirely successful.
Oh, yes.
Dracula ne paraît que la nuit, hein, il l'invite à dîner la nuit seulement, on ne le voit jamais dans la journée. Donc il y a un certain nombre de points d'interrogation au sujet de ce personnage. Et évidemment, Harker découvrira que son hôte est un vampire. Alors un vampire, c'est un mort-vivant qui ne peut subsister qu'en buvant, qu'en suçant le sang de ses victimes. Donc il ne peut sortir que la nuit. Il sort de sa tombe, il entre chez ses victimes et il leur suce le sang pendant leur sommeil. C'est la définition du vampire, c'est le mort-vivant qui est suceur de sang. Il a un certain nombre de particularités. Il ne se reflète pas dans les miroirs. Il a la peau extrêmement froide, la laine fétide, et il est très très pâle, une pâleur extraordinaire. Il ressemble à un mort. D'ailleurs, il est toujours habillé de noir, comme s'il portait son propre deuil.
Je vous en prie, savez-vous, je vous en prie. J'ai bien peur qu'il vous faille souper seul. Il est près de minuit et je ne prends aucune collation à cette heure. À mon grand regret, les gens d'office ne sont plus à notre disposition. Hélas, aussi m'autoriserez-vous à veiller à votre bien-être.
Je pense que Bram Stoker, finalement, était à la recherche d'un nouveau lieu d'action. Quand il commençait à écrire son roman, il met l'action centrale dans la zone alpine de l'Europe, dans la Styrie, alors dans le sud de l'Autriche d'aujourd'hui. Cela était un choix naturel, pour le dire, parce qu'au XIXe siècle, beaucoup de ces histoires gothiques, de ces histoires avec des monstres ou avec de l'horreur, ont trouvé leur action dans la zone alpine de l'Europe. Et alors, Bram Stoker était quelqu'un qui lisait beaucoup. et il commençait à s'intéresser pour le sud-est européen, qui était, vers la fin du 19e siècle, une zone avec des grands moments de transformation. La Grèce, par exemple, se trouvait en ce temps dans une série de guerres ou, disons, des conflits militaires avec l'Empire ottoman pour gagner plus de territoire. La question de la Bulgarie était aussi sur l'agenda européenne. La Roumanie était en train de devenir un État indépendant et, de 1881, un royaume. Pas encore dans les frontières d'aujourd'hui, mais elle est en train de se former. Donc, c'était une zone qui était toujours présente dans les journaux, et il commençait à lire. Et il trouvait un livre d'un historien anglais, William Wilkinson, qui a écrit en 1822, si je ne me trompe pas, un livre sur l'histoire de la Valachie. Et dans ce livre, il parlait toujours d'un prince qui s'appelait Dracula. Ou Vlad Dracul, pour le dire ainsi plus correct. Mais William Wilkinson ne faisait pas de distinction. Dans ce livre, on a l'idée que le père et le fils sont un seul personnage. Mais là, il trouvait le mot Dracula. Et il y avait dans son manuscrit un page sur lequel il a écrit en plusieurs variantes le nom Dracula, Dracula, Dracula. Et probablement, il était à la fin si fasciné de ce mot et de cette région à peu près inconnue en Europe qu'il a changé le nom de son roman et même le lieu d'action. Et ça, c'était le moment où l'idée du vampire Dracula finalement trouve son commencement.
Il faut vraiment que vous alliez là-bas. À la minuit, toutes sortes de mauvais esprits se déchaînent. Des gens disparaissent sans laisser de traces.
Oh, je vous en prie, ce sont la superstition.
Vous ne trouverez pas une voiture pour vous conduire là-bas. Et votre cheval ne sera pas sur pied avant plusieurs jours.
Je trouverai un autre cheval.
Gardez-vous d'y aller. Les bohémiens, certains parmi eux sont allés voir de l'autre côté. Ils savent.
À l'époque, c'était des pays complètement inconnus, donc qui demeuraient très mystérieux, on n'en savait rien. Donc on imaginait les choses. Et en plus, je pense que ce qui a marqué Stoker, c'est que comme je disais, il était très curieux et il avait assisté à une conférence d'un professeur de langues orientales qui s'appelait Arminius Wambery et qui justement faisait des conférences dans toute l'Europe sur le thème des légendes des pays de l'Est. Et donc Stoker a assisté à une de ces conférences à Londres. Il a été évidemment très très intéressé par ce qu'il entendait. Et donc, il l'a rencontré certainement plusieurs fois, d'ailleurs, dans ce cadre-là. Et je pense aussi que c'est grâce à Arminius Wambery qu'il a connu l'existence de Vlad Tepes.
En principe, ce Transylvanie est une conte férique. Par exemple, le Borgo Pass, dont il parle dans le roman, ne se trouve pas à la vicinité de la ville de Bystrica. Mais c'est un roman, c'est de la littérature, il a tout le droit de le faire. Cela ressemble à une zone européenne sous-développée qui était en train de découvrir soi-même l'autre Europe.
Bram Stoker a une particularité, c'est qu'il décrit avec minutie la Transylvanie, alors qu'il n'y a jamais mis les pieds. Tout est vu par les yeux de Jonathan Harker, qui arrive de nuit dans les Carpates, et qui découvre une route très très sinueuse, bordée de précipices, bordée de falaises, et le château lui-même est au sommet d'un piton rocheux. Donc on ne voit pas grand-chose de ce paysage. On n'imagine pas que Dracula puisse exister dans un autre pays. Les Carpates sont, dans l'imaginaire mondial, une source d'inquiétude, d'émerveillement, de tout ce qu'on veut. C'était à l'époque des pays extrêmement superstitieux, où toutes sortes de légendes couraient. C'est un peu comme si nous, on décidait de situer l'intrigue d'un roman d'horreur en Écosse, par exemple, parce que l'Écosse, c'est un pays de fantômes, c'est un pays... Et lui, il avait choisi donc l'Europe de l'Est, parce que l'Europe de l'Est était des pays où il y avait un très riche florilège de contes, de légendes, de superstitions.
Voilà, nous sommes presque dans les forêts de Transylvanie. Le paysage change. Je ne sais pas exactement quand, mais après la Révolution, quelqu'un a construit un hôtel au-delà de Bistrița, dans le passage entre Transylvanie et Moldavie.
Otigia et Deschamps.
C'est un hôtel qui s'appelle Dracula. C'est l'espace où se passe une partie des aventures du roman de Bram Stoker. C'est un espace bien connu pour les romans parce qu'il y a toutes sortes de phénomènes météorologiques extrêmes. Presque chaque soir de l'hiver, à l'émission de météo, on nous annonce il neige dans Passo Tihuza. Les neiges sont très hautes dans Passo Tihuza, les vents sont très fortes. C'est une liaison indirecte avec l'histoire de Bram Stoker. Nous allons vers la région forestière de Transylvanie, la légendaire région de Transylvanie.
Et Transylvanie, ça veut dire quoi?
Trans-Sylva. Au-delà de la forêt. En hiver, ici, les forêts sont pleines de neige. Tout le paysage devient presque blanc. C'est une région qui est associée avec les loups-garous, les croyances qui sont liées à la relation entre les hommes, les animaux, la forêt. On peut trouver même ici des croyances en revenant.
Dans les villages isolés d'Olteni, on n'a jamais lu le roman de Bram Stoker. On ignore même le nom de Dracula. Et pour s'assurer qu'un mort est bien devenu vampire, on conduit un cheval au cimetière, de préférence de nuit, et loin des regards. L'animal doit marcher sur la tombe du suspect. S'il passe, c'est que le mort n'est pas vampire. S'il refuse, qu'il hennit ou qu'il se cabre, il faut agir.
Vous savez, chaque pays a ses forêts. Là, c'était une région avec vraiment des vallées entre les collines et boisées jusqu'au village. Moi, j'habitais, par exemple, chez le peuple, dans une...
Johanna Andrescu.
Petite maison, vraiment du côté de la forêt, et j'avais presque peur parce que cette atmosphère-là, on entre dans cette atmosphère-là, on est pénétré de cette atmosphère-là. Chaque fois que j'ai parlé du vampire, je me suis mise dans un état d'insûreté, d'inquiétude. Ce sont quand même des choses pas trop faciles. On entre inconsciemment dans un état d'inquiétude. On a une fascination vis-à-vis de ces choses-là. On a une fascination vis-à-vis de la mort. C'est pour ça que les vampires sont considérés comme dangereux, parce que c'est le pouvoir du mort qui est inquiétant et on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas ces lois-là. N'oublions pas que le vampire, c'est du côté du diable. C'est le principe du mal. On a en soi, on est destiné, on est voué à devenir vampire. Pas n'importe qui, pas quelqu'un qui a eu un comportement mauvais, qui était méchant, devient vampire. Il faut être aussi voué. Ça veut dire qu'on est du côté du diable.
Les mots les plus utilisés sont ou strigoi ou moroi. Aussi avec des variantes féminines, strigoike ou moroike. En cas de moroi, c'est relativement simple. Il y a la racine mort et on le trouve aussi dans la langue française. Mourir, le mort, c'est ça. Et alors, c'est vraiment la notion de quelque chose ou quelqu'un qui provoque la mort des autres. Avec strigoi, c'est un peu plus compliqué, mais il y a aussi des mots dans les langues européennes, indo-européennes, qui ont une ressemblance. Par exemple, strix, ça existe, ou strega, la sorcière, en italien. Et donc, probablement, strigoi vient d'une racine qui dit quelque chose comme de magie noire, de magie qui provoque des réactions négatives pour les autres.
Strigoi, moroi, virkolak, prikulic, vampire. Il y a beaucoup de mots en roumain. D'après les croyances populaires, quand quelqu'un meurt, la communauté doit le préparer pour ce grand chemin. On appelle le passage entre ces deux mondes comme le grand chemin, Mare le drum en roumain. C'est un passage qui est très, très, très dangereux parce que le chemin est très difficile, il y a des ponts difficiles à être passés et en même temps, il y a là des esprits, des morts, mal morts qui restent là et qui tous essaient de couper la possibilité de passer du mort. Mais je crois que c'est plus exact de discuter de cet effort de communauté d'aider le mort de passer d'ici vers l'au-delà. Tout le monde peut devenir un strigoi. Et le rituel funéraire a le but d'assurer un bon passage et de couper cette possibilité.
C'est un individu qui, de son vivant, il n'a pas su, n'a pas pu ou n'a pas voulu s'intégrer aux règles du groupe, des lois traditionnelles, bien sûr, qui régissent la vie de la communauté tout entière. Et si quelqu'un dévie, c'est la déviance, si quelqu'un ne s'intègre pas dans les lois de la communauté, dans les règles de vie, alors toute la communauté se mobilise pour mettre de l'ordre. On se transforme en vampire si on n'a pas tenu compte des déviants. Un vampire, c'est une métaphore quand même. C'est une métaphore. Il vient manger, dévorer le cœur des vivants. Dans les années 40, c'est un Français qui le dit, qui s'appelle, c'est un médecin français qui s'est établi là-bas et qui a écrit un livre, Contribution à l'ethnographie de l'Olteni, Charles Laugier. Et il dit comme ça, si le mort a été sa vie durant un homme méchant, s'il a fait du mal à ses proches, s'il s'est mal comporté avec les autres, les lois du groupe, vous voyez un peu. Et s'il n'a pas montré de pitié à leur égard, il devient vampire. Comme ceux qui sèment la zizanie entre les hommes. Vous voyez un peu une définition. C'est la parole du groupe qui les définit comme Moroi et Strigoi. Ça n'existe pas comme ça, tout simplement, cette catégorie-là. Mais la parole du groupe les désigne comme des... les désigne comme vampires.
Le vampire vient toujours de la communauté, de la société, de la famille. Alors, quand un vampire vient, on l'identifie. C'est quelqu'un qu'on a enterré il y a 3 semaines. Mais en général, c'est quelqu'un qu'on connaît. C'est le père, c'est l'oncle, c'est le voisin. Ou probablement, même s'il n'habitait pas le village, c'est probablement un commis voyageur qui est toujours venu en nous pour vendre des choses. Et par hasard, il mourut dans le village et maintenant il est le vampire. Alors on sait qui est le vampire, parce que le vampire est un individu de la société. Alors, il faut le détruire par 2 raisons, principalement, bien entendu, pour se protéger, pour finir cet état de maladie, cet état de désorganisation, de perturbation dans lequel se trouve la société. Ça, c'est clair. Mais il y a une autre raison. Détruire le vampire, détruire le corps qui se trouve dans le tombeau, finalement donne à ce personnage la possibilité de faire le passage au-delà. Donc il faut ouvrir le tombeau, faut vérifier s'il y a vraiment le vampire là-bas, ou alors la personne qui se trouve là, avec des signes qui indiquent que c'est vraiment un vampire. Par exemple, un pot qui ressemble dans un état fraîche, les ongles qui probablement sont un peu plus longues, comme qu'il est encore vivant, et bien entendu, en général, il est dans un état de santé, visiblement. De temps en temps, on trouve aussi des choses sur les lèvres qui ressemblent au sang, ou au moins au liquide qu'il a bu pendant les actions dans le village. Quand on avait finalement vérifié qu'il est vraiment devenu un vampire, il faut le détruire. Et donc, la variante la plus utilisée, c'est une sorte d'empalement avec un pieu au cœur, où on le brûle.
Sors-toi, revenant, sors-toi, le mort-vivant, sors-toi, la boule, que crèvent les yeux du revenant, que crèvent les yeux du mort-vivant, que crèvent les yeux de l'envoûteur. Sors-toi, revenant, sors-toi, le mort-vivant, sors-toi, la boule, sors-toi, la strige, sors de son cœur.
En 1997, 100 ans après la première publication de Dracula de Bram Stoker, l'anthropologue Ioana Andreescu reçoit une lettre de la fille d'un pope de sa connaissance. C'est une invitation à venir. Les gens de son village ont déterré un mort, un mal mort qui n'en finit pas de mourir. Ils ont ouvert la tombe et l'ont dévampirisé par le feu. Le nom de ce Strigoi est Dodu. Et son passé est violent.
Ça a été dit tout d'abord qu'il était violent envers sa femme. Qu'il était violent, qu'il était cruel, qu'il l'a frappé. Qu'il... Et quand j'ai fait le terrain, il était comme garde forestier. Et il profitait de sa position sociale pour accaparer les biens des autres. J'ai découvert qu'il cumulait beaucoup de méfaits. Il y avait tout un tissu. Vous savez, les gens parlaient, disaient, essayaient de définir qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il est devenu, lui, vampire. Il entrait dans la catégorie de ceux qui profitaient. C'était quelqu'un qui était du parti. Je l'ai connu après, parce qu'il ne le disait pas, pour ne pas être dénoncé. Ils avaient peur d'être dénoncés. Il avait profité de sa situation sociale et... avec la police, la milice populaire, on l'appelait comme ça, la police, avec le parti, avec l'administration, c'était tout un système. Et il s'intégrait en ce système-là. Et de l'autre côté, c'était les gens, comme on disait à l'époque, exploitaient. D'après le discours officiel, ces croyances-là faisaient partie d'un passé révolu. Et dévalorisant, bien sûr. C'est pour ça que les gens avaient peur qu'on les dénonce comme barbares, qu'on dénonce leurs croyances, qu'on les définisse comme barbares. Et ceux qui racontent qu'il est devenu vampire, c'est la parole des groupes qui, dans une période de crise, comme ça a été par exemple la période Ceausescu, c'était interdit et de penser, de formuler, de demander et de régler des comptes avec des personnes qui profitent d'une position sociale privilégiée pour s'emparer des biens des autres. Et ceux qui s'emparent du cœur des autres et les mangent, les dévorent symboliquement, sont ceux qui ont ce pouvoir.
Il y a un rapport de force entre la communauté et le Strigoi. En roumain, il y a quelques mots « vii poruncesc celor morți », quand les vivants décident pour le mort. Parce que c'est la communauté des vivants, celle qui décide que le mort doit passer dans le monde de l'au-delà. Il y a une fonction sociale du Strigoi. Son rôle est celui de soutenir, de démontrer l'importance des rituels funéraires et l'importance de garder le respect pour les croyances populaires. En roumain, il y a un mot « rânduială ». Je ne sais pas comment on peut le traduire. L'organisation. Comment faire les choses. Les années 60 sont les dernières années quand beaucoup de traditions se passaient comme autrefois. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est une autrefois. Nous avons des enregistrements avec les enterrements, avec les noces, avec des gens qui racontent des contes populaires, qui chantent des chansons populaires. Dans les années 70, déjà, les choses ont commencé à changer. Dans la période communiste, il y a quelques sujets autour duquel les ethnologues et les chercheurs en général ont gardé le silence. La mort, les histoires des vampires, la mythologie populaire sont des mots et des sujets interdits dans la période communiste.
Pendant l'époque, comme ils appellent, pendant l'époque Ceausescu, c'était considéré comme des croyances d'attarder. C'est le discours officiel. Ça n'existe pas parce que c'est dévalorisant vis-à-vis de l'Église, dévalorisant vis-à-vis de la science. Et ces gens-là, quand ils vous voient, vous venez pour nous montrer comme barbares à l'étranger. Vous voulez que les étrangers voit que nous sommes attardés, que nous avons des habitudes arriérées.
On pourchassait les gens qui ébruitaient des incidents concernant le vampirisme. Donc le vampirisme était tabou parce que c'était une superstition. Alors Ceausescu, lui, voulait absolument chasser les superstitions. Il voulait rationaliser le pays. Et donc, il avait interdit, il avait fait fermer un certain nombre de salles à la bibliothèque de Bucarest où il y avait où on parlait de vampires. Ce qui d'ailleurs était gênant pour le gouvernement roumain, qui, devant le succès de Dracula, tenait absolument à utiliser cette manne sur le plan touristique. Donc il fallait en même temps attirer les touristes étrangers en mettant en lumière le personnage du comte Dracula, mais en même temps, il fallait éviter de le confondre avec Vlad Tsepech dit Dracula, qui lui était un personnage historique. Il faut surtout pas parler du comte Dracula, hein.
En fait, il y a une histoire qui commence au moment où la Roumanie s'ouvre au tourisme dans les années 60. Les touristes, principalement américains et britanniques, veulent du Dracula. Et les guides roumains sont complètement perplexes. Ils n'ont aucune idée de qui est Dracula. Parce que Dracula était alors pratiquement inconnu en Roumanie. Les films n'étaient pas projetés à Bucarest, les romans n'étaient pas traduits, l'histoire était complètement... Vous savez, personne ne connaissait vraiment cette histoire. Les Roumains étaient tout simplement tenus dans l'ignorance. Il y a deux raisons à cela. Premièrement, la presse occidentale. Ceausescu est devenu au fil des ans un dictateur de plus en plus brutal. Et le régime était particulièrement violent dans les années 1980. Les politiques mises en place ont aussi créé beaucoup de pauvreté. Pour ces raisons, la presse occidentale surnommait parfois Ceausescu Dracula. C'était donc un moyen d'empêcher que ce surnom se répande. Et deuxièmement, Dracula est en quelque sorte lié à Vlad l'Empaleur. Le régime voulait donc faire disparaître ce mythe selon lequel, vous savez, Vlad l'Empaleur serait Dracula. Il semble qu'il ait été envisagé de traduire le roman dans les années 1970, mais nous n'en sommes pas sûrs. La seule façon de tenir éloignés les Roumains de ce livre, c'était tout simplement de ne pas le traduire, de ne pas traduire les films, mais en même temps, on vendait cette histoire aux étrangers. Il y avait des guides touristiques qui expliquaient que ces deux personnages étaient bien distincts, que l'un était fictif et l'autre réel.
Alors qu'on s'apprête à fêter les 500 ans de la mort de Vlad Tsepech, un livre sème la confusion à la recherche de Dracula. C'est un best-seller. Il fait le lien entre Dracula et son double littéraire. Il opère la superposition des noms, de la fiction et de l'histoire, des lieux imaginaires et du réel. Le régime répond par plusieurs cérémonies qui encensent Tsepech, l'empaleur. Le nom de Dracula, déjà entaché par le diable, disparaît des manuels d'histoire. L'empaleur devient alors le héros féroce du nationalisme. Ni Strigoi ni vampire, Ceausescu l'insère dans la lignée des grands princes roumains.
În unanimitate, Congresul a aprobat schimbarea denumirii Partidului Român în Partidul Comunist Român.
Les communistes ont organisé un congrès mondial ou européen, je ne sais pas exactement, peut-être mondial, de l'histoire à l'occasion d'un moment anniversaire de la naissance d'un État unitaire d'un roi dace qui s'appelait Bourebista. Puis, il y a une longue liste des princes roumains qui commençait avec Bourebista et le dernier était Nicolae Ceausescu, bien sûr. Et dans cette liste, Vlad Tsepech se trouve parmi les plus importants princes roumains comme un représentant très important de l'autorité du droit dans la région de Țara Românească, de Valachie.
Panthéonul eroilor naționali.
Je dirais que le panthéon des héros nationaux,
Marianne Coman,
était relativement pauvre et que les historiens ne pouvaient se passer de Vlad Tsepech. En ce sens, après sa mort, Vlad l'Empaleur a été une succession de métaphores. Dans les années 1930, les mouvements d'extrême droite ont utilisé Tsepeș en en faisant un justicier. Et durant la période stalinienne, Vlad est devenu le modèle du politique luttant contre une aristocratie corrompue. Avec Ceaușescu, on l'a construit à l'image d'un parti national, d'un pays qui résiste seul contre les grandes puissances qui l'entourent.
Vlad apparaît comme un seigneur soucieux d'unité nationale, créateur d'institutions, notamment d'une nouvelle armée,
Traian Sandu,
d'un conseil princier qui travaille. Hein, les gens qui arrivent en retard sont remis sur la bonne voie, hein, donc on leur demande d'arriver tôt le matin, de travailler. Les châtiments doivent être justes et exemplaires, ce qui justifie évidemment la propre dureté et l'autoritarisme de Ceaușescu. Il est hostile à la trahison des boyards. Ceaușescu lui-même justifie ainsi son autoritarisme vis-à-vis des grands magnats communistes, des grands responsables communistes et son autorité sur eux et leur remplacement lorsqu'ils ont leur propre autonomie. On pense notamment à un certain nombre comme ça de grands dignitaires des années 50 dont Ceaușescu n'a eu de cesse de se débarrasser. Donc la politique finalement d'empalement ou de répression vis-à-vis des boyards traîtres de Vlad, trouver son répondant dans la mise sur la touche et la mise à l'écart des grands dignitaires à la fin des années 60 et surtout au début des années 70 par Ceaușescu. C'est un portrait, en fait, quasiment fidèle de Ceaușescu tel qu'il se voit.
Yunus Beg, îți mai aduce aminte de Vlad, postul ăsta te caltată lui meu?
Am stat în preajma lui.
The relation between Ceaușescu.
La relation entre Ceaușescu, son appareil politique et l'histoire est très complexe. Parce que l'histoire a été fortement instrumentalisée pour nourrir la propagande. La propagande nationale ou la propagande d'État. On a fabriqué beaucoup de films avec des personnages historiques. Dans un de ces films, on tente par exemple de faire de Vlad Tsepeș un homme du peuple. Mais ce film est un échec, en fait. Il est très, très mal réalisé. J'imagine qu'il n'est pas vraiment abouti. Je crois me souvenir qu'un film sur Dracula venait de sortir. Ils ont peut-être voulu lui faire concurrence d'une manière ou d'une autre. C'était peut-être une sorte de réponse à ce film. Vlad Tsepeș est le souverain idéal dans la pensée roumaine. Il est très juste, dur mais juste. Il est très intéressant de voir qu'à un moment donné, Tsepeș décide de rompre ses liens économiques avec les principaux partenaires de la Valachie. C'est ce que Ceaușescu fait, d'une certaine manière, dans les années 1970. Mais c'était peut-être moins évident à mettre en avant dans la propagande, selon eux. Vlad Tsepeș fait donc partie de cette galerie de princes idéaux qui s'achève avec Ceaușescu.
J'avais trouvé dans un document une expression extrêmement intéressante de Ceaușescu où il dit qu'il faut créer la tradition. Et donc, d'une certaine façon, mais là encore, cela fait partie peut-être des gens à qui l'on attribue beaucoup, parce qu'on peut leur attribuer, Ceaușescu aurait inventé cette idée selon laquelle il faut construire en fait l'histoire et construire les interprétations historiques. Bon, venant de lui, un homme qui avait fait juste des études primaires, c'est assez étonnant, mais cela représente bien en fait son égotisme, mais aussi sa conscience aiguë de la manipulation idéologique de l'imaginaire d'un peuple. Et Ceaușescu, de ce point de vue-là, oui, a su inventer quasiment des personnages historiques, du moins sortir de l'ombre, modifier le contenu de l'histoire au fur et à mesure que l'histoire se faisait et qu'il y contribuait lui-même.
Alors que le roman de Bram Stoker devenait un phénomène mondial, les historiens ont réagi à cette image du vampire dans laquelle on aperçut une teinte coloniale. C'est pour cette raison que Vlad Tepeș est devenu un double symbole dans le Panthéon national. Un symbole de l'histoire de la nation roumaine et le symbole d'un autochtonisme fondé sur des valeurs traditionnelles contre l'invasion occidentale. Et donc, d'une certaine manière, c'est en contraste avec Bram Stoker que les historiens ont cherché des causes à la violence, à donner une explication rationnelle, une justification logique à l'origine du mal. On a pu dire par exemple que cette violence était un mal nécessaire, que si Vlad Tepeș s'était comporté en monstre, c'était en vertu d'un idéal politique très élevé, très ambitieux. Je crois qu'aujourd'hui en Roumanie, les gens sont partagés entre deux camps, les Dracula et les anti-Dracula, Tepeș étant à l'image de l'anti-Dracula. Dracula représente la mondialisation et le consumérisme occidental, alors que l'anti-Dracula, Vlad l'Empaleur, est l'écho des traditions locales anti-européennes. Au fond, je pense que cette dimension altermondialiste et anti-consumériste sera la prochaine métamorphose qui définira les contours de Vlad Tepeș.
Le double sans reflet, épisode 4. Avec les historiens Matei Kazaku, Marianne Coman, Bogdan Popa et Traian Sandu. Avec les anthropologues Johanna Andresco, Otilia Hedeshan et Peter Mario Krauter. Avec les chercheurs en littérature Pierre Marini et Alain Pozzuoli. Remerciements à l'Université de Timișoara. Doublage Enzo Morales et Olivier Martineau. Prise de son Lucien Lefebvre, Antoine Espel, Yvan Charby, Hervé Dubreuil et Virginie Lorda. Mixage, Valentin Zanzelinski. Documentation, Annie Signoret et Antoine Vuilloz. Coordination, Christine Bernard. Collaboration, Anna Fulpin. Une grande traversée de Matteo Caranta, réalisée par Anne Perez Ronchini. Timp producția stagnează de ieri, iar stejarul Tepeș, doamna, ținem doar pentru boieri. De aceea propun să facem țepele din lemn de prun. Vor fi bețivi mai puțin, iar lemnul e destul de bun. E o propunere bună, zice Tepeș, propun chiar de mâine să înceapă producția cu lemn de prun. Totul să meargă bine, țapa să iasă fain, să nu se neglijeze problema de design. Țapa să fie suplă, să satisfacă clientul, să se potrivească perfect cu clima și ambientul, să se trimită cadre, să se specializeze. Economia de lemn să nu se neglijeze, printr-o reproiectare justă să se elimine orice sofism, astfel încât țepele să reziste și la seism.